Vous écoutez
RMC.
Les amis, on a parlé de Semaine d'Embélé, bien sûr.
Je vais faire le prochain.
Pensez quand même pour le boy bien nommé Frédéric André Bjorkan, le pauvre qui est sorti à la mi-temps. Ouais, il s'est pris trois courants d'air énormes en pleine canicule. Le Norvégien.
Ouais. Je vais juste revenir un point parce qu'après on va passer à autre chose sur Dembélé, son poste et son positionnement. Certes, il a réussi son match et je l'ai dit, et c'est clair et net. En retrouvant en plus ses frappes, létales. Mais c'est pas non plus le Dembélé qu'on a connu à une époque sur le côté droit qui élimine en un contre un. C'est en ce sens que c'est un peu différent quand même. Et je comprends que dans son esprit, quand on l'a renvoyé, on va dire sur ce côté, et je comprends que pour lui, il se soit dit, mais maintenant moi j'ai une autre palette, entre guillemets, je fais autre chose. Et d'ailleurs, tu vois, il a tendance à revenir pour marquer ses buts. Il est obligé forcément de revenir un peu plus dans l'axe. Donc c'est quand même, c'est pas tout à fait pareil de dire j'ai des gars sur les côtés qui vont faire du 1 contre 1, qui éliminent et qui vont être décisifs, que de dire maintenant ce Dembélé-là, c'est un Dembélé qui est différent, qui élimine pas en 1 contre 1, mais derrière, par contre, oui, il renfoue la défense, il a des frappes incroyables, il a les deux pieds, donc c'est très surprenant, il est très collectif, et, oui. Et il dézone, parce que, j'insiste là-dessus, on le dit souvent, et ça les coachs, c'est un peu leur ancienne, tu vois, ils disent, oui, il y a un système, mais bon, après, chacun, les joueurs sont libres et animent le système, tu vois, les conneries comme ça, mais c'est vrai, on les a vus beaucoup, on va dire, intervertir leur rôle, et dans ce cadre-là, Dembélé, ce qui est intéressant, c'est deux choses. L'intelligence de jeu de ces joueurs-là, que ce soit Olise, Dembélé et Mbappé, et la menace que ça représente, menace différentielle que ça représente pour les adversaires. Et là, on a vraiment l'état de la menace. Je crois que quand les adversaires voient la compo et voient qu'en plus, sur le banc, il y a Barcola, voire Cherki qui peuvent débarquer, oui, clairement, je pense qu'il y a un effet un peu, il y a un effet crainte, quoi. C'est une évidence.
Bon, voilà pour Dembélé qui a signé désormais définitivement son rôle en équipe de France. Ce sera à droite. Voilà. Un mal pour un bien pour un mal pour lui, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il a prouvé qu'il était encore un excellent attaquant d'aile droite, Ousmane Dembélé.
Il a égalé pour l'instant le classement en débuteur son ami Mbappé.
Exactement. On a 4-4. Deux Français à 4-4 derrière Léo Messi qui jouera demain. Léo Messi qui est à 5 buts. D'ailleurs, je vais regarder tout à l'heure. Tiens, c'est trouvé parce que là, le classement débuteur, il est démentiel. Où on en était après 3 journées, classement débuteur Coupe du Monde, savoir si on avait autant de joueurs à 5 buts, 4 buts, 4 buts, 3 buts, 3 buts. C'est une folie. Hein. En général, on a connu des compétitions où c'est terminé à 6 buts, un meilleur buteur.
Bien sûr. Et beaucoup de Coupes du Monde qui sont terminées à 6 buts, meilleur buteur.
Et là, pour l'instant, c'est pas question de format, puisqu'on a joué que 3 journées.
Donc, oui, mais il y a quand même là.
Le format des adversaires.
Il y a quand même là le fait qu'il y a quand même beaucoup d'adversaires qui sont quand même un peu plus faibles en termes de classement UEFA, tout simplement. Même s'il n'y a pas de souci, tout le monde a le droit d'être à la Coupe du Monde, ok, on a bien compris, il y en a que ça tend beaucoup ce genre de débat, mais de dire qu'il y a quand même des scores à fleuve. Peut-être ça a été le cas sur les dernières Coupes du Monde, en tout cas dans celle-ci, entre les niveaux de certaines équipes et de certains joueurs et en face d'autres équipes qui découvrent pour certaines la compétition, forcément, tu vois, souvent on m'a parlé là ces derniers jours du doublé de Cristiano Ronaldo. Le doublé de Cristiano Ronaldo, j'attends de le voir contre une équipe.
Et oui, bien sûr.
Ça faisait quand même un moment qu'il n'avait pas marqué.
On en parlait avec l'autre jour, tout le monde s'est gargarisé. Ça y est, il est de retour. He's back, Cristiano.
Bah, il l'a dit lui-même.
Lui, à la limite, ça lui appartient et c'est dans son rôle de le dire quelque part. Ceux qui m'ont enterré doivent comprendre maintenant que je suis encore là malgré mes 41 ans. Mais l'Ouzbékistan,
L'Ouzbékistan. Et pour répondre à ta question
sur l'équipe de France.
Juste pour finir là-dessus, le classement moyen à la Coupe du Monde 2022, FIFA, le classement moyen FIFA des équipes qui participent à la Coupe du Monde, c'était 22e, tu vois, le classement moyen. Là, c'est 32.
Pour te classement dire, FIFA, mais c'est ça, oui, d'accord, ok.
Tu vois, la moyenne du classement FIFA.
Ouais,
la moyenne du classement FIFA, 32. Bon, bah voilà, comme dit Kevin, et ce que je dis moi. Et encore une fois, je ne m'en offusque pas. Je le constate simplement. D'abord, il y aura des matchs en plus. Il y a des équipes plus faibles. Et enfin, il y a aussi la formule qui permet, par exemple, à la Norvège de vraiment. Alors, on a déjà eu des équipes de coiffeurs, hein, mais de cette manière-là, parce qu'ils ont un 16e plus important derrière. Et donc, voilà, tout ça concourt à mettre, à donner plus de buts que d'habitude. Il n'empêche que les buteurs en profitent et
tu
c'est
vois
très bien.
Et tu vois, regarde, c'est joli. Hein, Qatar 22, après 3 journées, les meilleurs buteurs, ils sont plusieurs, ils sont à 3 buts. Mais si, il peut être demain à 7 buts. Hein.
Bah, c'est ouf.
Attention. Hein. Alvaro Morata, Cody Gakpo, Olivier Giroud, Lionel Messi, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ener Valencia, Équateur.
Ouais. Et tu as raison.
Et après, c'est deux buts. Et là, on est à 5, 4, 4. Enfin, bref, c'est, ils sont palanqués à 3.
Je dis encore une fois que, quelque part, c'est une réussite pour l'objectif que s'est fixé la FIFA, qui est une forme d'évangélisation au monde, tu sais, du foot. Et si tu veux
évangéliser. C'est gargarisé une fois de ça, mais oui, mais, hier. Alors là, on n'a jamais marqué autant, c'est attends, incroyable.
Moi, je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Si c'est du marketing et de l'évangélisation, je dis bien joué. Parce qu'en fait, tu dis à des tas de gens qui connaissent moyen le foot, tu leur dis, bah, regardez, il y a des buts dans les matchs. Regardez, les stars marquent des buts. Bon, quand tu passeras. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on va passer au 8e de finale.
C'est-à-dire que c'est un bon blockbuster, en fait.
Oui,
et parce que nous, on attend qu'on est au cinéma.
C'est exactement ce que vient de dire Nico. Et blockbuster, qui dit blockbuster, dit États-Unis. Et donc, quand tu parles dans un bar avec des gens qui suivent d'habitude pas le foot, en fait, les gens te disent ici, non, mais moi, je regarde le foot, même des Français, moi, je regarde le foot que pendant la Coupe du Monde. Donc, en fait, et en plus, bah là, ils ont vécu le match tout à l'heure comme si c'était un quart de finale. Alors que le match, il a aucun intérêt quasiment, ou très peu d'intérêt. La Norvège aimait son équipe B, mais pour eux, voilà, pour eux, il y avait une ambiance de fou, parce que pour le téléspectateur lambda, ou le suiveur lambda du foot, bah pour lui, c'est un match énorme où Dembélé, il a fait un truc dingue de ballon d'or, de mettre 3 buts. Ils connaissent pas le gardien, ils connaissent pas l'arrière gauche qu'il avait en face de lui, mais ils s'en fichent parce que c'est la Coupe du Monde. C'est un moment magique.
J'étais devant un écran à Manhattan, une sorte de fan zone non officielle, avec des Américains qui étaient en folie. Vous voyez, après le triplé, il fait oh, it's amazing! I've never seen that! It's unbelievable!
That.
Oh oui, excuse-moi. Tu vois, il était dans un rapport très américain au truc. C'est incroyable ce qu'on vit. Mais nous aussi, on a trouvé ça génial. Ouais. Parce que la narration d'Embélé, tout ça dans le trou qui revient. Mais pour eux, c'était le plus grand film de l'histoire, quoi. Ouais. C'est ça qui est marrant. Bref. Et puis, une sorte de naïveté assez touchante aussi, quoi.
Et puis, quand tu dis aux gens, vous savez, en France, Dembélé était un peu critiqué, ou des fois Mbappé, on critique un peu. Les gens disent, mais quoi?
C'est le ballon d'or, et il est champion.
C'est le meilleur joueur du monde, mais comment vous pouvez critiquer?
Après, ils ont pas tout à fait tort, parfois aussi, mais
même, ils disent pareil sur le Portugal. Alors, ils comprennent pas pourquoi Cristiano est critiqué. Pour eux, c'est, on touche pas aux stars, quoi.
Parlons d'un talon d'Achille de cette équipe de France. La défense. La défense, d'abord, me mène à parler de déséquilibre, parce qu'il y a un vrai gap. On va pas se mentir. Même si on le dit sur le chat, c'est ce match Infinity qui nous dit attention, pas une mauvaise défense alors qu'on n'a pas perdu depuis 15 matchs. Quand même, soyons exigeants. On a face à nous une équipe de France qui a l'ambition d'être championne du monde 2026. Aujourd'hui, le déséquilibre a été encore plus criant. Et peut-être pas uniquement à cause de l'absence de William Saliba. Flo, d'ailleurs, Daniel disait, moi je l'accepte, c'est pas grave, c'est le nouveau Deschamps, c'est le nouveau système. On l'a réclamé à corps et à cri. T'es pas d'accord avec le jingle Flo Gautreau?
Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale.
Ça, c'est un des plus vieux jingles de l'after.
Totalement. C'est mon plus vieux jingle.
Lui, Daniel, dit qu'avec ce déséquilibre, on peut aller au bout.
Oui, et il dit un truc qu'on peut entendre, qui est que si l'idée c'est de mettre un but de plus que l'adversaire, bah, y a pas de souci, on a la force offensive pour le faire. Et il dit ça me va en termes, on va dire, philosophiques, tu vois, par rapport au foot. Moi, bien sûr, je peux le suivre là-dessus sur la philosophie générale. Sauf que moi, je dis le déséquilibre, ok, mais pas avec cette défense-là. Alors la défense au sens large, hein, effectivement, je vais venir, et précisément avec ces latéraux-là, parce que je veux pas remettre en cause la défense centrale. La Croix aujourd'hui, c'est une particulière, mais la défense centrale, on va dire Saliba ou Pamecano, il n'a rien à se reprocher et est une défense tout à fait parfaite. Et puis vous avez parlé de Mike Maignan, j'ai pas de critique à faire sur Mike Maignan. Mais les côtés, c'est très important, et notamment dans cette idée de déséquilibre. Et on sait déjà qu'avec deux milieux de terrain, tu as des fois plus de pression sur la défense. Et Daniel disait aussi, bah, c'est pas de la faute des défenseurs, parce qu'ils sont plus mis à contribution à cause justement du fait qu'il n'y a que deux milieux. Oui, mais là, c'est là où j'arrête d'être d'accord, parce que pour moi, ce qu'on a vu des deux latéraux depuis le départ, et vous savez que c'est pour moi une sorte de mantra depuis le début de la Coupe du Monde, je souhaite que ces deux latéraux changent, que Deschamps fasse sa révolution comme il l'a fait en 2018 en sortant Sidibé et Mendy, parce que c'est pas qu'une histoire de moindre couverture du milieu de terrain, c'est des erreurs techniques, c'est des fautes, de très grosses fautes. C'est Théo Hernandez sur Oscar Bob qui se fait manger et qui concède un pénalty, il faut quand même pas l'oublier, même si c'était sauvé par Mike Maignan. C'est une équipe de Norvège qui a quand même, avec cette équipe B, 7 occasions, 10 tirs, et qui met à mal notamment Théo Hernandez, qui a vraiment souffert, et même Koundé, dont on parle ici négativement depuis le début de la compétition. Et je dis simplement que dans cette compétition un petit peu difficile à analyser, puisque tu as une mi-temps très dure contre le Sénégal, la première. Tu as un match contre l'Irak avec un adversaire assez faible et tu as une équipe B de la Norvège. Évidemment, comme pour toutes les équipes, toutes celles dont on parle et tous les favoris, il faut se projeter sur un vrai match et se dire que ce déséquilibre qu'on a appelé de nos voeux, puisque avoir quatre offensives, c'est sympa et c'est intéressant, ce déséquilibre, s'il n'est pas compensé par une très très bonne défense, il est dangereux. Et je dis simplement que, par exemple, on a eu des défenses en 98 et pourtant elle était encore, elle était protégée effectivement par trois milieux. Mais néanmoins, quand j'avais Thuram d'un côté et Lizarazu de l'autre, en plus de Blanc, de Saïd, oui, je pouvais dormir tranquille. Là aujourd'hui, à part la charnière Upamecano Saliba, moi je ne dors pas tranquille, pas du tout. Je trouve que Théo Hernandez n'est pas au niveau dans une Coupe du Monde, que Koundé, même s'il est meilleur défensivement, ne l'est pas. Et donc, je m'inquiète effectivement de cela. C'est-à-dire que ça valide la théorie de Deschamps des quatre offensifs, ce qu'on a vu globalement, on l'a dit en début d'émission. Mais le fait que ça valide cette théorie va évidemment provoquer des déséquilibres. On le voit contre une équipe B de la Norvège, on peut être mis en difficulté. On l'a vu contre le Sénégal, on peut être mis en difficulté. Et moi, je dis aujourd'hui que les latéraux, les côtés de l'équipe de France, ceux que Emers Faé avait ciblés dans le match amical,
eh
bien, je pense que ça peut être un problème pour les Bleus.
Kevin, est-ce que tu es d'accord avec Flo, les quatre aussi qu'il faut choisir pour retrouver une solidité, une stabilité défensive? On va en parler dans un instant.
Après, moi,
Te plaît ce déséquilibre ou pas? T'es prêt à l'assumer?
Non, mais l'idée, c'est pas de savoir si on va déséquilibrer. L'idée, pour moi, il y a deux versions dans le foot. Soit il y a une équipe qui veut imposer quelque chose à l'adversaire, soit il y a une équipe qui accepte de subir pour pouvoir mieux contrer. Didier Deschamps, c'est le football qu'on a vu depuis quasiment 12 ans. D'accord, 12 ans. Après, sur les 2-3 dernières années, il a essayé de faire autrement. Il y en a qui vont penser que c'est parce qu'il y avait tellement de joueurs offensifs qu'il fallait changer, que c'était contraint et forcé. C'est un peu mon cas. Il y en a qui disent qu'il a voulu se réinventer parce qu'il s'est rendu compte que ça, moi, j'ai du mal à le croire. Mais bon, force est de constater qu'aujourd'hui, on a une équipe qui veut imposer quelque chose à l'adversaire. Mais c'est une équipe aussi qui doit savoir subir. Pour moi, je suis désolé. La réduction de l'écart de la Norvège, c'est un scandale. Tu peux pas prendre ce but sur l'engagement comme ça. C'est fou de prendre ce but. Alors ok, c'est un match pour du beurre, tu viens de mener 2-0, bon, mais le but, tu le regardes, mais franchement, faut pas faire une analyse vidéo sur le but, hein, parce que là, les mecs, ils font tous des tours de terrain demain. C'est
une folie.
Si tu prends ce but-là en finale de la Coupe du Monde, c'est
exactement, bien sûr.
Et juste, après je te redonne la parole, y compris sur Mécano, parce que sur ce but, en dehors du fait...
Ouais, mais lui, il est à la fin de l'histoire.
Ah, à la fin, sur la feinte, elle est pas énorme, la feinte. Hein,
ouais, mais bon, lui, il peut pas faire faute, c'est dans la surface de réparation, c'est compliqué. Mais la balle, jamais, elle doit arriver là en quatre passes, en fait. C'est fou. Bon, allez, disons que c'est la déconcentration après avoir encaissé un but et après avoir fait le but du break. Mais le pénalty, c'est pareil. Le pénalty, c'est très mal défendu. Tu peux pas balancer le mec comme ça. Déjà, le gars, il rentre dans la surface juste avant.
Oscar
et,
Bob.
Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas une surprise. On n'est pas surpris là. On n'est pas surpris que l'équipe de France n'a pas des latéraux à la hauteur de ce qu'est le reste de l'équipe. On n'a tout simplement pas. Alors, on me parle tout le temps du réservoir, le truc. Ah, le Brésil, ils ont plus de latéraux. Vous voyez, mais nous, on n'a pas de latéraux non plus en fait. Donc, on n'a pas Nuno Mendes. On a et encore. Bon, franchement, les latéraux de très haut niveau, c'est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, il y a deux types de latéraux de toute façon, et c'est presque Deschamps qui a lancé ça en 2018. Il y a deux types de latéraux aujourd'hui dans le football de haut niveau. Il y a les défenseurs centraux qui sont repositionnés latéraux pour pouvoir apporter un petit peu à l'image de Thuram à l'époque, mais surtout de Benjamin Pavard ou de Lucas Hernandez qui était un central, qui avait été repositionné là, pour avoir une assise défensive de 4 mecs. Et même Pep Guardiola l'a fait à Manchester City sur les dernières années, avec des joueurs qu'il a mis là, Nathan Ake, Kuzanov, enfin bref, il y a plein de joueurs qui ont des fois joué latéral alors qu'ils ne l'étaient pas. Et après, t'as l'ancien ailier qui est reconverti, un peu mal au gusto, le mec. Donc là, nous, on a le central, c'est notre ami Koundé, et l'ancien ailier reconverti, mais pas très bon défensivement, c'est mal au gusto. On a eu aussi... comment il s'appelle? Bref, j'ai oublié son nom, celui de Nice, qui était à Lens. Rappelez-moi son nom.
Klose.
Voilà, Klose, Jonathan Klose, oui. Pareil, ancien ailier, très offensif. Et oui. À gauche, on a Lucas Digne, qui lui est un latéral gauche de formation, mais qui a toujours été un joueur assez yaourt nature, pour reprendre l'expression de Walid Acharchour. C'est-à-dire bon pied, pas grand défenseur, pas grand attaquant, mais joueur qui fait
le boulot. Alors, tu fais quoi, toi?
Bah, je te l'ai dit, moi, j'aurais mis vraiment, avec cette équipe-là, j'aurais mis Mathieu Hüdol. Mathieu Hüdol n'est pas là. Ok.
Non mais voilà. Maintenant.
Et ben moi, je suis presque à remettre Lucas Hernandez. Je suis presque à remettre.
En fait, ah ouais. Alors ça. D'accord.
Non mais il a pas tort. Tu veux mettre des décès
Je veux mettre des vrais DC.
Tradition française, hein.
De toute façon, t'as des attaquants.
Tu mets des DC sur les côtés.
Ouais. T'as des attaquants. Ça, c'est une tradition. Mets des DC.
Kevin, quand il voulait être, Deschamps, quand il voulait être solide, il a mis 4 DC, on s'en souvient, l'histoire de l'Euro 2024.
Il l'a mis aussi en.
Lilian Thuram.
Mais en 2018, c'est 4 DC.
2018. Lilian Thuram en, alors, il n'y avait pas Lizarazu, c'est vrai, mais Lilian Thuram, c'est un défenseur central qui est reconverti arrière droit avec Jacques.
Mais Lizarazu, c'est un vrai défenseur, attention.
Non, non, mais je suis
pas. Il y a des mollets
comme ça.
Latéral,
très défenseur,
mais très défenseur.
Très bon défenseur.
Parce que hey, oui, avec ses cuissons, ah, ses mollets, pour le passé, fallait y aller. Hein.
Non, non, mais juste pour faire la stat des DC qui étaient latéraux. Mais ouais. T'as raison, lui à l'époque, à l'inverse des nouveaux latéraux qui, pour caricaturer, pour aller très vite, des fois savent moins bien défendre, lui savait.
Non, c'est pas défendre. Caricaturer, il ne savent pas défendre. Même Nuno Mendes, c'est pas un grand défenseur. Non, mais... il compense par une qualité de vitesse et de puissance.
Donc concrètement, toi, tu me dis Lucas Hernandez que tu remets
j'ai
à gauche.
J'ai dit presque. Après, je le remets à gauche
et à droite. Et parce que Koundé aussi à Séville a joué parfois souvent en défense centrale, par exemple.
Non, mais moi, Koundé.
Koundé est surtout un axial. Hein.
Koundé, moi,
il n'est pas de Barça.
Il n'y a pas mieux. Malo Gusto, c'est un contre-attaquant. C'est un joueur très offensif.
Donc tu verrouilles. Pour assumer les équipes, tu verrouilles derrière avec 4 défenseurs de formation purs et durs.
Je regrette
des centraux. C'est intéressant, ça.
Voilà. Moi, je regrette.
Pas entendu. Le retour